Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation, le dernier vendredi du mois, Guy Le Polarski au micro. Vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, en particulier avec un membre éminent de cette association, Hervé Delouche, qui est avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Eh bien, bonjour Guy.
Au sommaire aujourd'hui, Hervé, un petit tour du côté des éditions Liana Lévy, qui ne sont pas forcément celles à qui l'on pense spontanément quand il est question de romans noirs. Et pourtant, elles mènent leur petit bonhomme de chemin en toute indépendance depuis près de 40 ans et aussi dans le noir. Donc, et surtout, elles proposent un catalogue avec quelques auteurs qui ne laissent pas insensibles, tout au moins du point de vue de Variation en noir, à commencer par Yaïn Levison. Et nous parlerons de son dernier roman en date, Un voisin trop discret. Et puis nous parlerons d'une auteure ou une autrice qui nous avait déjà bien bluffé avec ses mafieuses et qui continue cette exploration avec Faut pas rêver. Hervé, peut-être avant de commencer, un petit mot sur les éditions Liana Lévy, des éditions indépendantes, ce qui est quand même assez rare par les temps qui courent.
Oui, c'est une petite maison d'édition qui est dans le 5e arrondissement, place Paul Pinlevé, je crois, par là. Et voilà, qui est, oui, comme tu l'as dit, qui poursuit son, depuis maintenant plusieurs décennies, son bonhomme de chemin, en toute indépendance, et qui n'a pas de collection polar dédiée. Il y a pour l'amateur de romans noirs des auteurs qui nous intéressent, et évidemment au premier titre déjà Yaïn Levison, qui est un garçon qui connaît parfaitement les codes du noir, puisque je ne sais pas s'il a pu y aller, mais il était invité de Quai du Polar. Mmh. Et à la question rituelle, quel roman préférez-vous? Il avait dit Les Arnaqueurs de Jim Thompson. Le film préféré, Assurance sur la mort, de Billy Wilder, d'après James Cain. Et auteur préféré, Denis Liane. C'est du sans faute, quand même, hein. Donc, Yaïn Levison, on en a parlé ici plusieurs fois, je crois. Voilà, l'auteur, pour en dire, je crois qu'on peut revenir un tout petit peu sur lui. Il est né en Écosse, il vit aux États-Unis à partir de 1971. Et il a exercé une foule de métiers. Il a eu 42 emplois dans 6 États différents. Il raconte ça dans un livre à la fois très sarcastique sur le monde du travail et en même temps toujours avec une certaine drôlerie, un humour noir qui est sa marque de fabrique quand même, hein, qui était un livre qui s'appelle « Tribulation d'un précaire ». Mais il a été découvert en France en 2004 avec un livre qui est un petit boulot. Faut préciser que donc tous ces livres, il y en a 8 maintenant, sont publiés chez Liana Lévy. Ils sont tous traduits et excellemment traduits par Fanchita González Battle. C'est important, c'est un auteur à qui s'attache un traducteur ou une traductrice, parce que ça rend la voix d'un auteur, il y a une familiarité, enfin ça me semble, ça devrait être évident, mais en tout cas c'est très bien que Liana Lévy fasse ça. Et voilà, un petit boulot que il faut quand même conseiller à tout amateur de polar qui ne l'a pas encore lu. C'était un univers qu'on connaît bien en général, hein, une petite ville, un bled de province, l'hiver, l'usine délocalisée au Mexique, la population au chômage, du désespoir. Il y avait Jake qui était un oublié, le téléphone ne sonnait plus sauf pour lui rappeler qu'il avait des dettes envers ses créanciers, et il allait devenir, c'est là évidemment l'excès mais révélateur aussi, il allait devenir tueur à gages dans un monde de toute façon déjà déshumanisé. Alors on pensait on pensait comme référence un peu au chef-d'œuvre de Donald Westlake, Le Couperet, avec cette critique cinglante et acérée de la société américaine. Bon, après, mais tu veux peut-être en dire quelques mots, il a continué, Ian Levison, tout en, parce que très longtemps, il le raconte d'ailleurs, il a été content de l'accueil, notamment fait en France, il venait dans des festivals, il rencontrait d'autres écrivains, il était interviewé, et puis il retournait aux États-Unis, où, il allait nettoyer les chiottes dans un endroit, où il allait, moi je me souviens l'avoir interviewé, et puis il me racontait une anecdote qui datait de quelques jours avant, où il travaillait pour une société, je ne sais plus, d'entretien, de nettoyage, un truc comme ça, il devait intervenir dans un appartement qui avait été saisi par huissier et où il avait vu les gens partir complètement détruits, et lui-même ça le mettait dans un état d'émotion et de révolte, enfin de colère noire, quoi. Et voilà. Et puis je crois que depuis, quand même, Ian Levison maintenant a rencontré, y compris là-bas, un certain succès. Il y a eu une série de Il y a eu des romans drôlatiques, et puis, à mon avis, ça, tu diras ce que t'en penses, une gravité qui s'accentue. Ils savent tout de vous, dont je crois on avait parlé en 2015, qu'ils aventuraient sur le terrain de l'ultra-surveillance, de ses effets pervers. C'était une sorte de thriller d'anticipation dystopique, un mot dont nous reparlerons bientôt, je crois. Et puis, je crois que le dernier dont on a parlé, il y a 3 ans de ça, c'était Pour Service Rendu, qui était un retour sur la guerre du Vietnam, où 47 ans plus tard, on était face à, d'un côté, deux soldats qui s'étaient connus au Vietnam, l'un qui était devenu un sénateur très médiatisé et qui se trouvait confronté à son ancien sergent, resté lui commissaire d'un tout petit patelin du Michigan, mais ce sergent qui savait des choses sur ce sénateur qui avait construit sa carrière politique sur un mensonge. Et la guerre, le mensonge, je crois qu'on va les retrouver dans ce voisin trop discret.
Voilà, une autre guerre. Alors, nous ne sommes pas coordonnées, pour savoir ce que nous dirions de Ian Levison et de son dernier roman, mais en tout cas, tout ce que tu as dit, j'aurais pu le dire. Et je suis très content. Non, il n'y a pas de souci. Et je suis très content, bien au contraire, que tu aies évoqué Donald Westlake, parce que bon, moi ce que j'estime, c'est que depuis que Donald Westlake a tiré sa révérence, on peut considérer que Ian Levison est celui qui a pris le relais du maître de l'humour au service du noir et des anti-héros. Et son dernier roman en est une nouvelle preuve. Un roman qui entrecroise le parcours de 5 personnages, un chauffeur Uber de 60 ans, une stripteaseuse latino, un tireur d'élite des forces spéciales américaines, une mère célibataire qui épouse un soldat homosexuel et un militaire aux dents longues qui se voit finir ambassadeur des États-Unis. Et donc, pour imaginer ces 5 personnages et leur faire vivre une histoire aussi incroyablement entrecroisée que terriblement vraie, il faut s'appeler Ian Levison. Tu as évoqué Donald Westlake. Moi, je pense qu'il y a vraiment une filiation importante. Et puis, alors, donc, il faut aussi oser.
Je suis tout à fait d'accord avec ça, et j'y ajouterai un personnage qui ne fait que quelques apparitions, mais qui est aussi le vieux flic Hollenbeck, tout près de la retraite, et qui à la fois est dans son enquête et en même temps a des remarques assez désopilantes. Je pense qu'on est complètement dans la lignée qui est sur la ligne de crête entre une sorte d'humour un peu ravageur et une critique sociale, mais qui justement reste tout le temps dans ce dans ce côté assez drôlatique, assez humour grinçant. Voilà.
Ouais. Et c'est vrai qu'il faut aussi oser débuter un roman par une scène de consultation, introspection chez un médecin, hein, avec un type qui s'exclame « Merde !» quand il apprend que son bilan de santé est parfait et complètement OK. Ça, c'est Jim, le chauffeur Uber. Avant d'emmener, Ian Levison, avant qu'il emmène son lecteur quelques pages plus tard, au fin fond de l'Afghanistan, à Kot, pour découvrir deux soldats embusqués dans la montagne qui attendent leur cible, Haji, hein, et voilà, avec un tireur qui s'appelle Grolsch, des forces spéciales. Ça se terminera mal, très mal pour le guetteur qui l'accompagne. Et entre-temps, on a eu droit aussi à une scène de demande en mariage assez croustillante. Hein. Alors, c'est à Bennett, on pourrait considérer que c'est le trou du cul du Texas, un fringant jeune militaire qui a invité son ex-petite amie de lycée, Madison, et bon, il lui avoue d'abord son homosexualité, et ensuite il lui propose de l'épouser. Les célibataires n'ont jamais de promotion, le mariage est un signe de stabilité que l'armée apprécie. Et puis, combien d'ambassadeurs gays crois-tu que nous avons? Parce que le projet de ce militaire, c'est de devenir ambassadeur. C'est quand même un début de roman. Là, je vous ai décrit peut-être les 25-30 premières pages maximum, hein, Hervé. Ça part dans tous les sens, et en même temps, il y a un lien.
C'est une véritable prouesse, parce que il campe comme ça... il y a Jim d'abord, et puis après les deux couples de protagonistes, plus quelques autres, mais c'est avec des alternances de scènes, avec, comme tu dis, il y a Bennett, coin paumé du Texas, Philadelphie, où je crois Jim est chauffeur Uber, après, pour continuer à gagner sa vie, même après 60 ans, il a eu d'autres professions avant, mais là aussi il y a des faux semblants. Enfin voilà, on est aussi dans le domaine de la demi-vérité ou du demi-mensonge tout le temps avec les personnages. Et il y a aussi cette multiplication, cette alternance des scènes et cette alternance des points de vue. À chaque fois, ça c'est vraiment très brillamment fait, et le fait que ces personnages très différents vont tous être amenés à se croiser, puisque Corinna, qui est la compagne de Grolsch, est aussi la voisine qui emménage à côté de chez Jim, qui est donc ce voisin trop discret, et voilà, puis aussi
et on ne vous dira pas pourquoi.
On ne vous dira pas pourquoi, mais aussi dans ces premières pages, ça permet aussi à Ian Levison, à travers un trajet, que fait faire un client, le chauffeur Uber, Jim, de dénoncer, la société, panoptique, enfin là aussi une sorte d'ultra-surveillance, mais qui est devenue celle que peut exercer chaque individu, puisque pour une espèce de quiproquo à propos d'un feu tricolore, évidemment le client mécontent va faire descendre la note de Jim le chauffeur, ce qui peut avoir des conséquences catastrophiques. Enfin voilà, le monde dans lequel on vit, à travers une anecdote, mais qui est révélatrice de choses plus graves et plus importantes, et qui est une chose qui met... ce monde ne plaît pas à Jim, il y a des passages où il en parle, et cette espèce de pessimisme, de désillusion, qui est peut-être celle de Levison, est tempérée justement par cet humour, comme on dit maintenant souvent, cette politesse du désespoir, peut-être, mais en tout cas, voilà, c'est ça qui est fort, c'est que Levison arrive à dire plein de choses sur le monde dans lequel on vit. Il y a aussi, mais je pense que tu en parlais, des passages sur la guerre, puisque dans le précédent, on parlait des vétérans du Vietnam. Là, on a des vétérans beaucoup plus proches.
Oui, qui ne sont pas encore vétérans.
C'est l'Irak et l'Afghanistan. Ouais. Voilà,
mais justement, bon, en fin de compte, Ian Levison, dans ses premiers romans, on avait l'impression qu'il s'attachait aux héros du quotidien. Ces personnages étaient quand même des ce qu'on appelle aujourd'hui les héros du quotidien. Et effectivement, avec son précédent roman et encore avec celui-ci, il s'attache aussi et s'intéresse aux héros tout court, tout au moins aux héros de guerre en l'occurrence, avec bien sûr l'envers du décor, hein. On a des soldats courageux, médaillés, mais qui ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Et quelque part, et notamment avec la place des femmes, hein, dans ce dernier roman, on a le sentiment d'une confrontation entre le héros de guerre et le héros du quotidien.
Oui, et ces femmes, justement, ces deux femmes, que ce soit Corinna ou Madison, qui vont être... qui finalement, comme tu dis, sont elles des héroïnes du quotidien et vont être... alors Jim est un personnage à part, mais bon, elles sont des personnages, à mon avis, qui peuvent paraître plus invisibles, plus dans l'ombre et qui sont des personnages, j'allais dire, beaucoup plus... en tout cas, beaucoup plus forts dans leur caractère et leur humanité que, par exemple, cette machine à tuer... qui est devenu un Grolsch, ce sniper des forces spéciales, qui est dont évidemment les faiseurs de guerre ont fait une espèce une machine à tuer froide, cynique, dans des guerres de plus en plus virtuelles, avec qui comporte la vidéo qui a rendu célèbre WikiLeaks, qui était meurtre qu'on appelle meurtre collatéral. Enfin voilà, c'est-à-dire c'est soudain dans le viseur au loin c'est des crimes, donc le mot bavure n'irait pas, mais ces crimes qui paraissent juste des erreurs sont possibles. Enfin voilà. Il y a la mort d'un Hadjib, par exemple, qui est raconté là. Enfin bon, et puis en même temps, il y a ce quotidien, il y a l'humour qu'apporte, enfin le contrepoint qu'apporte, par exemple, à un moment j'avais noté ça. Il y a par exemple un flic, c'est peut-être Hollenbrink, je ne sais plus, qui s'exclame, il parle à un collègue, il dit il faut apprécier les meurtres dans les quartiers blancs. Parce que là, les gens parlent aux flics, ce qui en creux contient toute la rupture. On connaît on connaît bien le mouvement Black Lives Matter, etc. Toute la rupture qui peut se faire entre une société, sa police et toute une frange de la population, si ce n'est une. Enfin voilà quoi. Je pense que ça, c'est le talent énorme de Levison, c'est que c'est toujours. En fait, il y a plein de choses comme ça sans en avoir l'air. C'est-à-dire que c'est absolument jamais démonstratif, mais c'est toujours d'une précision qui est. Il y a toujours ce côté très 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 grinçant et qui en dit beaucoup sur. Sur les vicissitudes d'un certain monde.
Voilà, et sans jugement hein, par rapport à ces personnages, quels qu'ils soient. Donc, Ian Levison, un voisin trop discret, à consommer sans être discret, hein, je dirais.
Donc, on peut lire absolument, on peut évidemment lire un voisin trop discret qui est, en plus, qui quand même, juste ajoutons ça, où on apprendra comment une queue de billard peut abolir le hasard,
oui.
et avec un quiproquo, un rebondissement final brillant. Voilà.
Alors aussi, quelques mots sur une autre auteure hein, qui publie chez... Liana Levy, c'est son troisième roman chez le même éditeur.
Elle avait commencé avec une novella parce qu'elle y est riche, qui était publiée par la belle collection de Marc Villard chez Inuit, la Polaroid, qui s'appelait Le Homard. Que ça commençait déjà avec des pages absolument désopilantes sur une tombola dans une maison de retraite avec une narratrice qui abandonnait le pic à glace qu'elle venait de gagner, mais qui, par contre, prenait le homard. Voilà, et puis il y avait là aussi des notes, sans avoir l'air non plus sur des petites piques sociales très très amusantes, très très bien trouvées. Notamment, je crois qu'on avait parlé ici
les mafieuses, et avant il y avait une île bien tranquille, ouais. Et en regardant le voilà. Et en regardant le livre, hein, et on ne l'a pas dit pour Ian Levison, mais il faut le dire, tous ces livres, sauf le dernier, bien sûr, sont aussi publiés en poche, hein, chez Liana Levy dans la collection Piccolo. Donc,
pour Kate Dietrich, si je ne me trompe pas, ils sont publiés chez J'ai lu en poche. Les mafieuses, on peut le trouver chez J'ai lu.
Ah, d'accord, parce qu'une île bien tranquille, c'est aussi en Piccolo, hein, chez Liana Levy. Mais les mafieuses, oui, peut-être. Là aussi, il y a beaucoup d'humour, peut-être plus léger que chez Levison, mais une sacrée manière de poser la question de la place de la femme dans nos sociétés, et puis au niveau de différents sujets, que ce soit la question du couple, la question de la place au niveau du monde du travail. Alors là, avec Faut pas rêver, bon, à proprement parler, ce n'est pas une suite, hein, des mafieuses, peut-être un prolongement, puisqu'il y sera aussi question de mafieuses, mais on n'en dira pas plus, Hervé. Hein.
Non, ça, on ne pourra pas en dire plus, mais il sera question de mafia. Il y a aussi un côté comédie familiale, puisque les mafieuses, c'était deux sœurs, l'une qui était qui bossait au départ dans une ONG, et ce qui permettait quand même, on sentait que Pascal Dietrich, qui est sociologue, hein, par ailleurs, en connaissait, était capable, avec beaucoup d'humour, de renverser un peu, enfin, de l'image purement humanitaire et pleine d'humilité des ONG. Là, ce qu'elle en donnait à voir n'était pas tout à fait ça. Et par ailleurs, à côté de ça, l'autre sœur était une pharmacienne bien placée dans la ville de Grenoble, qui en même temps, à la suite de son papa, chef de clan, dealait de la dope à travers des petites doses homéopathiques vendues dans son officine. Et c'était évidemment, alors avec opposition entre les sœurs à l'intérieur de la famille, clans rivaux, enfin bon, c'était rebondissant à souhait, et c'était évidemment très drôle. Et là, on a quand même, on peut juste donner peut-être le point de départ.
Tout à fait.
Après, ça va beaucoup rebondir. Mais Pascal Dietrich, elle aime bien ce qui, quand même, des personnages qui sont liés au quotidien, mais avec un léger décalage quand même. Hein. Il faut que ce soit un petit peu hors norme, comme celles dont on a parlé. Mais là, faut parler de Carlos, enfin, je sais pas.
Oui, de Louise, peut-être, hein, Louise, puisqu'on parle des femmes qui a enfin rencontré l'homme idéal, intelligent, attentionné, avec qui a quitté l'Espagne, hein, qui est arrivé en France et qui exerce le métier. Bon, c'est assez rare, mais ça existe.
Il a travaillé dans la finance et il est devenu.
Voilà, je te laisse le dire.
Quand il avait raconté qu'après avoir travaillé dans la finance, il avait opéré un virage à 180 degrés pour se reconvertir dans le métier de sage-femme,
voilà.
Louise avait définitivement fondu. Mais il y a un autre, avant, c'est assez drôle, elle raconte qu'avant, elle avait rencontré des buveurs, des dépressifs, des hypochondriaques. Elle avait même eu une aventure avec un collectionneur de sous-bocs, le pire de tous. Ça, c'est tout à fait l'humour à la Pascal Dietrich. Mais alors voilà, il faut dire que
Carlos,
va bien, il est parfait, il est un homme au foyer, attentionné, jovial, intelligent, en dehors d'un détail, mineur, ridicule à côté de ses qualités, mais néanmoins notable, il parle dans son sommeil.
Il peut devenir violent, il parle en espagnol avec véhémence, même physiquement, et au matin, il se souvient de rien.
Ce mal qu'on appelle la somniloquie.
Oui, ça j'ai appris, hein, somniloquie.
Ouais. Alors qui n'est pas considéré comme une maladie, j'ai vu ça parce que au départ, ça ne procure pas beaucoup de souffrance et ça ne nuit pas à l'entourage. Le livre de Pascal Dietrich va un peu dans le sens inverse.
Tout à fait.
Comme tu le disais, Carlos, qui parle, ce qu'il dit pendant, sont des propos extrêmement violents, où il veut tuer, ça le ramène tout le temps à Marbella, il veut faire la peau d'un type, tout
González.
Ça est en espagnol, Ce qui fait qu'évidemment, c'est aussi désopilant parce que Louise n'entrave pas un mot d'espagnol, donc elle se demande même s'il faut qu'elle se mette à la méthode assimile pour comprendre, pour essayer de comprendre ce qui soudain le met hors de ses gonds, lui, qui est un homme très zen dans le quotidien. Et donc, eh ben, elle va, plutôt que de assimile, ça irait pas assez vite, donc elle va enregistrer les conversations nocturnes, enfin, les soliloques nocturnes, plutôt. Elle va les faire traduire et puis, tout ça va rebondir à souhait et c'est...
Donc voilà, elle les fait traduire très, par son amie, Jeanne. Oui. Et il y a un petit clin d'œil aux radios associatives, hein, parce que Louise explique que leur collaboration avec son amie Jeanne remontait à l'époque de l'université quand elle faisait une émission pour une radio associative. Bon, c'était pas Radio PFM, mais voilà.
Et, ce clin d'œil fait plaisir.
Voilà.
Oui.
Donc... Pascal Dietrich, faut pas rêver, aussi aux éditions Liana Lévy, du bon temps de lecture, hein, que ce soit Yann Levison ou Pascal Le Dietrich.
J'allais dire qu'en ces temps de il est bien de en ces temps qui ont été un peu sombres, en ces temps qui vont être des temps de vacances pour beaucoup, je pense que ce sont des lectures qui sont très bien, pas parce qu'elles seraient sans saveur, mais justement parce qu'elles en ont beaucoup, tout en étant très réjouissantes.
Voilà, c'est ça, c'est divertissant, sans être abêtissant peut-être.
Absolument.
Voilà. Eh bien, c'était Variation en noir, le dernier vendredi du mois, une émission de Radio PFM réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec Hervé Delouche. Hervé, merci.
Eh bien, merci Guy, merci Bernard, et puis merci à tous.
Voilà, et rendez-vous très bientôt pour de nouvelles variations en noir. Très bonne lecture à toutes et à tous.